Pardon, désolé. Pardon.
Je suis juste au bout du rang, là. C'est ma place.
Le strapontin, là-bas.
Merci, pardon. Merci, pardon.
Le strapontin. La culture vue du bout du rang. La culture vue du bout du rang.
Sur Radio Campus Paris.
Une émission réalisée dans le cadre du programme Tour des Facs.
Par les étudiants de l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 et voici Strapontin, l'émission qui vous présente la culture vue du bout du rang pour les étudiants parisiens. Des papiers. On parle de beaucoup de papiers cette semaine qui ont fuité d'un tout petit pays très loin de chez nous, mais qui arrivent à provoquer des vagues, que dis-je, un véritable tsunami à la tête de nombreux pays. On parle aussi beaucoup d'un autre type de document, en créant une tempête parmi la population française, surtout jeune. Et oui, un certain code. Par contre, on parle très peu de cette nouvelle curiosité parisienne que j'ai découverte en levant la tête alors que je me promenais la semaine dernière. En effet, si vous marchez le long du quai Branly, vous découvrirez une construction géométrique, blanche et lumineuse, dessinée par la société d'architectes Villemotte, un cabinet d'architectes qui met l'accent sur la recherche d'une esthétique de ses créations. Pour l'instant, un grand bulbe doré surmonte l'édifice, mais à terme, ils seront cinq. Tout ceci doit représenter, je cite, « cet esprit de pureté, de pérennité et d'insertion harmonieuse dans la ville ». Mais de quoi suis-je en train de vous parler ? Tout simplement de la nouvelle cathédrale orthodoxe russe qui s'élève maintenant à deux pas de la tour Eiffel. Financée à hauteur de 70 millions d'euros par l'État russe, elle devra constituer un véritable centre culturel dédié à la diffusion de la langue par le biais d'une école et d'une bibliothèque, de la branche orthodoxe russe grâce à l'église et tout ce qui a trait à ce vaste pays grâce à des salles d'exposition. Une sorte d'équivalent de la Maison de la Culture et du Japon, me direz-vous. Sauf que... la Russie est un pays qui se joue de nos accords diplomatiques en ce qui concerne une zone où l'ONU via la France intervient. Je parle de la Syrie, jusqu'il y a peu. Il semble très étrange qu'une telle construction soit acceptée alors que ces accords peuvent se transformer en désaccords aussi rapidement que la pluie alterne avec le beau temps en cette saison. En 2012, lors de la prise de poste, François Hollande avait émis des réticences à continuer ce projet adopté par son prédécesseur. Mais il a fini par plier. Alors... la culture permettrait-elle de résoudre des conflits ou de les dissimuler? Nous en saurons peut-être plus lors de l'inauguration de cet objet en automne prochain.
Le strapontin.
La culture vue du bout du rang. Sur Radio Campus Paris.
Parlons de la Sorbonne Nouvelle, une fac qui bouge. Nous voici d'ailleurs en direct de cette université située dans le 5e arrondissement. Vous pouvez entendre derrière moi la rumeur des conversations des étudiants entre deux cours. Et oui, c'est dynamique ici. Et ceci de plein de manières, avec des manifestations qui fleurissent régulièrement et permettent de découvrir tout plein de formes artistiques, tout ceci grâce au service d'action culturelle. En première interview, je recevrai d'ailleurs Laura Pardonnet, la responsable de ce pôle, et... avec Annabelle, nous parlerons ensemble du festival Actefac. Pas d'idée pour sortir ce soir ? Suivez Juicy avec son reportage sur les pas de la musique reggae à Paris, quand un musicien se pique de bougeotte et vous invite dans une salle de concert très spéciale. Nous continuerons notre interview avec notre invité, Laura Pardonnet et Annabelle. Enfin, eye contact. Ça vous dit quelque chose ? Quand le regard reprend une place dans la rencontre de l'autre. Imaginez un monde de silence. Cela pourrait être une nouvelle manière de communiquer. Le reportage de Gabriel nous expliquera tout cela. En deuxième partie d'émission, Suzanne m'accompagnera pour discuter avec Valérian de la compagnie Désirade. Nous verrons ensemble comment de tels festivals étudiants permettent de propulser les jeunes compagnies sur les planches. Alice nous emmènera ensuite dans son café curieux, des objets insolites dans un lieu hors du commun, à deux pas de là. Il est maintenant 4h10 sur Radio Campus Paris. Vous écoutez bien le strapontin, la culture vue du bout du rang. Une émission enregistrée en plein air sur le parvis de l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. À mes côtés, bonsoir Annabelle.
Salut Éléonore, bonjour Laura Pardonnet. Vous êtes bonjour. La chargée d'action culturelle de Paris 3. Merci d'être parmi nous.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Pas de problème.
On a plein de questions à vous poser par rapport au festival Actefact, le festival de théâtre de la Sorbonne Nouvelle. Mais Actefact, comme vous nous l'avez bien dit, c'est plus qu'un festival, c'est aussi un dispositif d'accompagnement des compagnies de théâtre de Paris 3. Mais avant de détailler un peu tout ça avec vous, on aimerait bien voir un petit bilan sur les représentations du 31 mars au 3 avril qui ont eu lieu au Théâtre de l'Opprimé. Comment ça s'est passé sur place alors ?
Alors effectivement, on a eu un temps de festival là, la semaine dernière au Théâtre de l'Opprimé où les compagnies qu'on suivait l'année dernière ont pu représenter soit un nouveau projet, soit leur, le projet précédent. Ça a duré 4 jours, il y a 4 compagnies qui sont présentées, ça a été un véritable succès, la salle était pleine tous les soirs. On a intégré dans le programme de ce festival, on a participé à la Nuit des débats aussi, qui a été un événement initié par la ville samedi dernier. Et pareil, on a pu du coup débattre au Théâtre de l'Opprimé. C'était très festif, il y a eu beaucoup d'échanges, de créations, et on est très satisfaits de cette édition.
Ok, très bien. Et on se demandait d'ailleurs si dans le public, il y avait beaucoup d'étudiants de Paris 3.
Oui, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup d'étudiants de compagnies qu'on a suivies Actefact de l'année d'avant ou de l'année actuelle. Donc ça commence quand même à créer un assez grand réseau de jeunes créateurs étudiants. Après, je ne sais pas si ils sont tous étudiants à Paris 3, mais on en a quand même croisé quelques-uns. Et après, c'est aussi le réseau de chaque compagnie qui ramène à cette occasion-là. Mais voilà, c'était un public assez mélangé.
Et d'ailleurs, des collectifs de la Sorbonne Nouvelle ont-ils été repérés par des pros durant ce festival ?
Alors là, on n'a pas invité particulièrement de professionnels, ça c'est plus à la Bastille, mais on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, je ne sais pas quelles graines ils ont réussi à semer et ce qui va naître maintenant. Mais en tout cas, c'est sûr que grâce à Actefact, ils sont en relation avec des professionnels, notamment Rui Frati, qui est le directeur du Théâtre de l'Opprimé, et qui, quand il voit un spectacle qui lui plaît, n'hésitera pas à le programmer les éditions prochaines. Et j'aimerais juste un petit mot, au service culturel on fait beaucoup de choses, attention il y a d'autres services de l'université qui s'occupent aussi des jeunes créateurs, je pense au bureau de la vie étudiante, je pense à l'association théâtrale des étudiants de Paris 3, la TEP 3 qui fait un festival aussi hyper important en ce moment sur le campus qui s'appelle À Contresens. Voilà, il y a toute une série d'acteurs qui animent la vie culturelle et je tenais à ce que ça soit souligné parce que même si on fait un gros travail avec Actefact, on n'est pas, ça s'est rendu possible par tout ce réseau en fait.
Et d'ailleurs enfin, le service d'action culturelle ne s'occupe pas uniquement de théâtre. Il y a donc cet atelier de radio qui a été coordonné par le service d'action culturelle. Vous avez organisé des stages durant les vacances et vous avez des retours des étudiants quand ils font quand ils participent à ces ateliers.
Oui, c'est vrai que c'est important de le dire. Le service culturel, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord une des plus importantes billetteries universitaires de France avec plus de 80 partenaires. Il y a tout un pôle d'ateliers donc, que vous venez d'évoquer avec des stages, des ateliers de pratique dans plein de domaines musicaux, théâtral, enfin voilà, plein de choses. Effectivement, on fait des enquêtes de public. Généralement, les étudiants sont satisfaits des propositions qu'on leur fait. Et on cesse, surtout, chaque année, on étoffe. Enfin, il y a quelques années encore, on avait 2 ateliers de pratique. Maintenant, on en a 30 semestriels ou annuels. Donc voilà, on multiplie nos actions. Et après, il y a le troisième grand pôle qui est vraiment le soutien aux initiatives étudiantes et à la jeune création théâtrale. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit Actefact.
D'accord. Et on se posait un peu des questions par rapport à la programmation donc du festival Actefact, parce qu'on a vu que vous parrainez une petite dizaine de collectifs cette année, et qu'il y avait le collectif La Malle des Indes, l'Insubmersible, Sillon et Tébarré, qui étaient présents pendant le festival. Et on se demandait pourquoi c'était eux qui avaient été choisis, s'il y avait des critères spécifiques.
Alors, ces compagnies-là que vous avez pu voir à l'Opprimé, c'est des compagnies qu'on a suivies l'année dernière. Attention, cette année, on en suit 10 nouvelles, dont Valérian, que vous allez recevoir juste après, de la compagnie Désirade. En gros, ces compagnies, il faut à la fois qu'elles soient... Actefact, c'est un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. On veut que ces compagnies s'insèrent, on veut les accompagner pour qu'elles s'insèrent dans le monde du spectacle vivant. Donc on cherche des compagnies déjà assez solides, avec un projet de création nouveau, parce que le but c'est de les accompagner artistiquement, notamment avec le parrainage dont on parlera, sur ce nouveau projet de création. Donc voilà, avant l'été, généralement, entre mai, juin, juillet, on rencontre toutes les compagnies qui sont intéressées par le dispositif Actefact, on discute avec elles, et après on essaye, là par exemple l'année dernière, on en a rencontré une cinquantaine, on en a choisi 10 qui rentraient dans ce profil un peu particulier, et après attention, les autres, on essaye de les accompagner d'une autre manière. C'est juste que selon nous, leur profil ne rentre pas dans Actefact. Mais voilà, le but, c'est de toutes les accompagner. Et on a déjà accompagné donc 10 compagnies cette année, 10 compagnies l'année dernière que vous venez de citer, et 6 compagnies la première année. Donc là, on en est à 26 compagnies qui sont passées par le dispositif Actefact en 3 ans.
Et je voulais savoir comment s'est construit ce parrainage avec le Théâtre de l'Opprimé, comment vous avez tissé ces liens pour justement construire ce dispositif.
Donc les deux lieux, donc Actefac, c'est un dispositif d'accompagnement toute l'année, puis un festival qui se passe d'abord au Théâtre de la Bastille, puis au Théâtre de l'Opprimé. On travaille avec une vingtaine de lieux sur Actefac, Belleville, La Loge et les lieux que vous venez de citer. Et au départ, nos partenaires d'action culturelle, on les crée grâce aussi à la billetterie, qui est une grande force, un levier de négociation pour monter de l'action culturelle et d'autres projets. Voilà. Et la Bastille, par exemple, c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer le dispositif avec eux. Pour ce qui est de l'Opprimé, c'est un lieu particulièrement intéressé par la jeune création, et c'est ce qui nous a amené à les contacter et à entamer un partenariat avec eux autour d'Actefac.
Je vous remercie. Maintenant, nous allons écouter un tout petit peu de musique pour se changer les idées. La chanteuse Mo Calamity avec Evolution. C'est toujours agréable d'entendre ce genre de musique. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et c'est l'émission Strapontin, l'émission de culture étudiante. Alors, nous allons passer maintenant à notre premier reportage avec Juicy. Bonjour Juicy. Alors, il y a quelques jours, tu es allé voir un concert un peu atypique dans les rues de Paris. Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Bonjour Eleonore. Alors oui, en fait, c'était un samedi soir. Je prends la ligne 14 du métro. Je descends à Cours Saint-Émilion et je marche vers la Seine. Arrivé presque au niveau de la voie rapide, je commence à entendre de la musique. Je continue en direction du son et tac, je tombe sur une soirée reggae en plein milieu de la rue. Imaginez, un gros camion jaune avec écrit « Daddy Reggae » et derrière lui, un mur de grosses enceintes qui balance du son. Je vous laisse apprécier.
Effectivement, ça a l'air sympa. Et comment ça se passe concrètement ?
En fait, le camion abrite le DJ. Et les spectateurs qui se trouvent entre le camion et les enceintes se laissent aller au rythme des classiques du reggae jamaïcain. C'est en somme une véritable discothèque mobile. Les initiés appellent ça un sound system. Écoutons quelqu'un de leur témoignage.
J'ai eu l'occasion de le voir quand il a acheté sa sono à la fête de la musique il y a quelques années. Première fois, j'arrive et oh, c'est impressionnant. Parce que c'est sorti de nulle part, mais c'est un vieil activiste dans le reggae.
Je pensais qu'on serait plus caché, et en fait, on est vraiment sur le trottoir, avec un gros mur de son, et de la musique vraiment forte, et c'est assez impressionnant, quoi.
Camion, sono, on va dans la rue, on reste pas chez soi, on va pas dans des petites salles, péniches, etc. Voilà.
Beaucoup de monde, c'est vrai, et puis c'était assez inopportun, du coup, d'avoir autant de monde pour Daddy Reggae, du coup, c'est super cool.
On a entendu les gens parler de Daddy Reggae, mais au fait, qui se cache derrière ce nom ? Et depuis quand il utilise ce camion pour jouer de la musique ?
Alors, Eleanor, le vrai prénom de Daddy Reggae, c'est Manu. Il est passionné des musiques jamaïcaines et il habite la région parisienne. Bercé par le reggae depuis son enfance, il le diffuse avec son sound system sur son camion à Paris et en Provence depuis environ 3 ans. J'ai eu l'occasion de le rencontrer avant l'une de ses balades musicales dans Paris, où il me l'a dit un peu plus sur lui. On l'écoute.
Ben moi, je viens du milieu sound system, c'est-à-dire la grosse sono typiquement reggae, avec un concept jamaïcain ou anglais, c'est-à-dire avec énormément de watts et de niveaux sonores. Et quant à cette sono-là, les occasions de jouer sont rares parce que tu peux gêner pas mal de gens en ville. Donc il y a une certaine forme de frustration qui se développe, et je me suis dit qu'en étant déjà autonome en matière d'énergie, hein, j'ai un générateur derrière, un groupe électrogène, et en étant mobile, je pouvais me permettre notamment de jouer sur l'effet de surprise, de faire plaisir aux gens par l'effet de surprise et le visuel, et en plus d'éviter de rester à un seul endroit et de gêner quelqu'un pendant des heures ou des voisins pendant des heures. Je vais sillonner Paris, à mon avis je vais la couper dans le diamètre, la ville, 2 ou 3 fois. Tu vois, je vais aller à Jaurès jusqu'à la Cité de la Musique. Je vais passer par le canal. Je vais redescendre sur République et le Marais. Je vais aller sur l'autre rive, la rive gauche. Après, je retourne aux Champs-Élysées. Et je redescends sur Bastille en fin de journée.
Et voilà une bonne alternative quand on veut donner du gros son et qu'on ne peut pas déranger les voisins. Et d'ailleurs, comment je peux trouver Daddy Reggae si je veux l'écouter ?
Alors, Eleonore, c'est très simple. Suis le camion jaune sur la page Facebook Daddy Reggae.
Eh bien, merci, Juicy, pour cette découverte.
Ah, merci à toi.
Nous sommes bien sur Radio Campus Paris et nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. Revenons donc maintenant en plateau avec Annabelle et Laura Pardonnet, attachées au service d'action culturelle de la Sorbonne Nouvelle. On va faire le bilan ensemble du festival Actefac qui s'est terminé récemment. On a vu du théâtre, des jeunes compagnies qui nous ont présenté leurs créations. On fait le point sur tout ça dans cette première interview.
Alors, on va enfin parler du dispositif d'accompagnement. Alors, Laura, expliquez-nous et à nos auditeurs en quoi consiste concrètement le parrainage d'une compagnie par le service d'action culturelle.
Donc du coup, c'est 10 compagnies qu'on suit toute l'année. On leur concocte des parcours de formation, un parcours de formation administratif, un parcours technique, un parcours artistique, donc avec différents ateliers qui ponctuent les semaines et les mois. Et ces parcours de formation, ces ateliers, on les imagine avec nos structures partenaires. Donc ça peut être... je ne sais pas, moi, un atelier de danse avec Sylvia Costa, un atelier de scénographie avec la costumière de Joël Pomera. Enfin voilà, il y a différents types de rendez-vous. Il y a aussi des moments de laboratoire, de résidence sur le campus, où on laisse carte blanche aux compagnies pour qu'elles habitent l'université. On essaye d'aménager comme ça plusieurs espaces, plusieurs moments de rencontre tout au long de l'année. C'est assez intensif et le but est de les aider dans leur structuration et dans leur projet de création, tout simplement, pour qu'elles arrivent forte et remplie de tout ça au moment du festival.
Et comment vous les choisissez, ces collectifs à parrainer ? C'est eux qui se présentent ? C'est vous qui allez les chercher ou
C'est un peu des deux, mais j'avoue qu'on est quand même régulièrement sollicité tout au long de l'année. Et souvent, on prend les contacts des compagnies qu'on croise comme ça au fur et à mesure de l'année. On les invite à revenir vers nous au moment où on sélectionne les compagnies à parrainer. Et voilà, et après, c'est juste de la discussion, un échange pour essayer de construire le dispositif qui colle le plus à leurs besoins. Parce que ça, c'est hyper important de le dire, Actefac, c'est pas quelque chose de figé qui existe depuis 20 ans. Ça fait 3 ans, ça change tous les ans, ça va changer encore. Le but, c'est vraiment d'ajuster ce dispositif et la force qu'on a avec tous ces partenaires aux besoins des jeunes créateurs. Parce qu'on croit en eux, on croit en ce théâtre émergent et on veut vraiment les aider à se propulser sur la scène contemporaine.
Et qui sont-ils, ces jeunes créateurs? C'est des étudiants donc, de Paris 3, mais ils sont en études de théâtre, ils font d'autres études.
Les compagnies sont mixtes, déjà. Enfin, il faut que le porteur de projet soit inscrit à Paris 3. Généralement, il est inscrit effectivement en théâtre ou en médiation culturelle. Plutôt, c'est les départements qu'on touche le plus. C'est le département qu'on touche le plus. Après, les compagnies sont souvent très mélangées, hybrides. Il y a des gens qui viennent de partout, des comédiens qui viennent d'écoles de théâtre, des scénographes d'écoles de scénographie. Enfin, voilà, le but, c'est vraiment de tisser ce réseau multiple et divers et voilà, de leur permettre de monter, de construire leur réseau comme ça.
Vous avez parlé de changement dans ce dispositif d'accompagnement. Vous prévoyez déjà d'évoluer vers un autre système, vers peut-être une relation avec d'autres facs qui auraient le même dispositif
Alors là, on n'a pas encore tiré le bilan de cette année. Il est important de préciser que là, les compagnies qu'on suit cette année vont jouer au Théâtre de la Bastille le 4, 5, 6 juillet. Donc là, on est en plein dans cette préparation. Elles ont chacune un metteur en scène parrain aussi qu'elles voient régulièrement. Donc là, on est encore vraiment dans le mouvement. Donc c'est pas l'heure du bilan, mais il y a effectivement déjà eu ce type d'ajustement. On s'est rapproché de Rideau Rouge. À chaque année, on étoffe nos partenariats. D'abord, il n'y avait qu'un festival à la Bastille. Maintenant, il y en a un aussi à l'Opprimé. Donc voilà, on essaie de tirer chaque année les leçons. Et de l'ajuster. Par contre, je ne peux pas encore actuellement vous dire quel sera le visage d'Actefac 2016-2017.
D'accord. Et qu'est-ce que Rideau Rouge ?
Rideau Rouge, c'est un festival de théâtre initié par Sciences Po, par des étudiants de Sciences Po, qui s'intéresse à des jeunes compagnies étudiantes. Voilà. Donc, des fois, les compagnies qui sont dans Actefac passent aussi par Rideau Rouge. Il y a des croisements, on essaie de monter des choses ensemble. Le but, en fait, c'est de rencontrer tous les acteurs qui s'intéressent et qui croient en la jeune création et qui veulent la défendre. Essayer ensemble de se positionner les uns par rapport aux autres, de tisser la toile la plus pertinente possible autour de ces jeunes créateurs pour les aider. Enfin, voilà.
D'ailleurs, on a remarqué que dans la programmation d'Actefac, au Théâtre de l'Opprimé, il n'y avait que des spectacles qui étaient des créations et pas des interprétations de pièces déjà écrites ou déjà montées. C'est vraiment un objectif de montrer des créations durant les festivals ou...
C'est pas un critère. On accepte aussi d'autres choses, mais c'est juste que c'est révélateur, en tout cas, de la jeune création. Et en tout cas, c'est issu de notre université. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets de création, de projets pluridisciplinaires. Voilà, donc ça reflète juste, à mon avis, un état de la jeune création actuelle, ou en tout cas celle issue de Paris 3. Hein, je ne vais pas étendre ça à la France ou à l'international.
Alors là, on va arriver à un moment un petit peu polémique, puisque en enquêtant sur le festival Actefact, on a eu vent d'une histoire un petit peu étrange. Car durant la semaine Actefact à l'université, à peu près une semaine donc avant les représentations au Théâtre de l'Opprimé, des compagnies parrainées par l'Action culturelle donc organisaient des performances. Et donc une performance de la compagnie Incarnée apparemment n'a pas pu avoir lieu à cause du service de sécurité. Et donc on voulait un peu savoir pourquoi et si vous pouvez nous en parler et si cette histoire était un peu trop loin.
Alors déjà pour resituer, c'était pas un moment de festival. Les compagnies, comme je vous le disais, on leur laisse carte blanche. Une fois par mois, il y a une semaine de carte blanche à l'université, tout au long de l'année. Une compagnie prend possession des lieux. Là, pour la dernière carte blanche de l'année, on a fait une carte blanche intercompagnie. Donc, on a invité toutes les compagnies Actefac à construire un programme de carte blanche ensemble. Et effectivement, la compagnie Incarnée avait prévu une série de déambulations et une exposition sur les colis piégés, ce genre de choses qui remettent un peu en cause, et c'est très important, l'état d'urgence dans lequel on se trouve actuellement. Et voilà, c'est quelque chose qui a été refusé par l'université. Parce que c'est un moment où il faut réussir à mettre en place des mesures de sécurité à la fac et que voilà, c'était un petit peu contraire, un peu problématique à ce moment-là de faire ça. Donc évidemment, on le regrette, mais on le comprend aussi. Et l'idée, c'est d'essayer de stimuler la création. Et ce fut quand même une très belle semaine de carte blanche. Ils ont rebondi en faisant d'autres choses. Voilà, mais...
Pour vous expliquer un petit peu, c'était donc la compagnie Incarnée qui voulait que des clowns maquillés en bleu et blanc, bleu, blanc, rouge, fouillent les sacs à l'entrée, mais pas que. Ils voulaient mettre également en place un musée des colis suspects. Voilà.
C'est vrai qu'on a un de nos amis de la sécurité juste derrière nous qui fait réellement ce travail et c'est pas forcément facile, enfin, ça demande une rigueur, c'est compliqué de faire ça en ce moment à l'université et voilà, pour pas brouiller en fait les pistes, pour pas rajouter des choses. On nous a, enfin, après c'est pas un choix du service culturel évidemment, nous, c'est un projet qu'on a défendu mais qui n'est pas passé malheureusement, mais on le comprend.
C'est plus haut dans la hiérarchie que ça a bloqué.
Oui, c'est les services sécurité parce que quand on monte des événements ici, évidemment plein de services de l'université sont mobilisés.
D'accord, bah merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Hein.
Et je vous le rappelle juste, du coup, le festival Actefac à la Bastille, ça sera le 4, 5, 6 juillet. Vous pourrez découvrir les compagnies de la Comédie Humaine, Incarné dont on parlait, Désirade que vous allez recevoir maintenant, Pavillon Hard. J'aurais pas dû me lancer là-dedans parce que je vais en zapper.
Non,
les Corps
bien.
Vagabonds, et là il en reste. Et Still Life Experiment. Voilà, donc c'est les 6 compagnies que vous découvrirez.
Venez nombreux. Hein.
Très bien, et eh bien merci beaucoup Laura Pardonnet d'avoir été présente aujourd'hui pour cette interview. C'est vraiment toujours agréable de connaître un petit peu mieux le service d'action culturelle parce qu'on s'était rendu compte que les étudiants à Paris 3, quand on les interroge, ne semblent pas très bien connaître l'existence de ce service. Ils n'ont pas l'air de savoir les effets, l'existence de la billetterie, ne savent pas trop. Donc je pense que ça peut être un moyen aussi de vous donner un peu plus d'existence concrète dans la tête des étudiants qui passent par ici.
C'est vrai, si je peux juste conclure, qu'on a un service très utilisé et très connu de certains étudiants, notamment en théâtre et en médiation culturelle, mais nous, évidemment, notre action est à destination de l'ensemble de la communauté universitaire. Donc on invite tous les étudiants à nous retrouver Bureau 18, à échanger de leurs projets, à aller au théâtre, et voilà, à nous rencontrer.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voici maintenant le moment d'écouter Gabrielle qui va nous présenter son reportage. Alors toi, tu n'as pas passé un dimanche comme les autres, il me semble, puisque tu as vécu une expérience un petit peu à part. Raconte-nous ta découverte.
Salut Éléonore. Alors en effet, j'en avais un peu marre de passer mes dimanches à recouler sous la couette. Et à l'arrivée du printemps, je me suis dit, tiens, si j'allais me balader dans un jardin. Alors arrivée au Champ de Mars dimanche dernier, je tombe nez à nez avec un groupe de personnes qui, par binôme, se regardaient dans le blanc des yeux. Alors tout de suite, je pense à une sorte de speed dating bizarre pour les hippies. Mais en réalité, il s'agissait d'un nouveau concept fraîchement arrivé d'Australie. C'est le eye contact. D'après mes infos, c'est une nouvelle forme de contact qui, par le regard, cherche à recréer du lien dans nos sociétés de plus en plus individualistes. Mais finalement, ceux qui en parlent le mieux sont quand même les gens qui ont passé leur après-midi au parc à aller à la rencontre visuelle d'inconnus. J'en ai interviewé quelques-uns en leur demandant de me donner leur définition de eye contact.
Pour moi, l'eye contact, c'est pas uniquement des gens qui se regardent, c'est des gens qui essayent de trouver un confort dans la personne qui est en face d'elle sans forcément la connaître. Une rassurance dans le regard de l'autre, en fait.
C'est un échange d'énergie par le regard.
Le mental s'en va, et là, c'est plus un contact d'âme à âme. Et là, il y a vraiment un échange énergétique et ça peut vraiment aller jusqu'aux larmes.
Eye contact, c'est le contact le plus profond qui puisse exister avec la légèreté la plus grande. Puisqu'il n'y a même pas de contact physique. Et quand on fait eye contact, on est vraiment dans cette inconditionnalité de ne rien chercher avec l'autre. C'est juste une expérience inconditionnelle, se laisser aller. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs d'yeux différentes les uns des autres, mais les expériences sont tellement différentes, fabuleuses et inattendues.
Eh bien, ça m'a tout l'air d'être une expérience assez exceptionnelle. Et comment ça se met en place tout ça ?
Justement, je me suis posé la même question. Et plus tard, je suis allée à la rencontre d'un des organisateurs de ce genre d'événement sur Paris. Il s'appelle Anouche et il nous explique comment ça se passe, comment c'est organisé.
En fait, c'est super simple. Il n'y a aucune logistique, il n'y a rien. Il y a juste à préparer une page, une annonce. Moi, j'utilise Facebook et puis c'est tout, quoi. C'est des personnes qui se rassemblent au même endroit pour vivre quelque chose de très simple, évident. C'est totalement libre. Ouais, voilà. Il n'y a quasiment pas de cadre, en fait. C'est pas un atelier, c'est pas un stage. Il suffit de rien. Sinon, je ne l'aurais pas fait parce que je suis assez paresseux. Voilà.
Ça m'a l'air assez simple, en effet, mais il suffit juste de se regarder dans les yeux. Et s'il n'y a pas de règles, des conditions à respecter ?
Il n'y en a pas beaucoup. La première, c'est de respecter l'espace des autres, de laisser 2-3 mètres. La deuxième, c'est de pas trop rester discuter, pas pendant 15, 20, 30 minutes, même des fois, il y en a qui restent une heure. Ça cristallise tout, en fait. Il n'y a plus de mouvement, il y en a qui se lèvent, qui ont envie de changer, et c'est pas possible. Et en blaguant un petit peu, j'ai dit, voilà, si vous avez un coup de foudre, échangez vos coordonnées et puis cédez la place, quoi. Mais c'est pas forcément de la séduction. En fait, on vient rencontrer l'autre par le regard et il se passe ce qui se passe. Il y a vraiment très peu de place au contrôle. On peut accueillir l'autre, se mettre à nu, on peut aller rentrer chez l'autre si l'autre nous y autorise. Il y a plein de possibilités et c'est pas forcément de la séduction.
Alors, convaincu ? En tout cas, si vous voulez pouvoir regarder des gens dans les yeux sans avoir l'air suspect, comme ça peut être le cas dans le métro, par exemple, eh ben, c'est l'occasion de tester quelque chose de nouveau et de, qui sait, faire de belles rencontres. En tout cas, moi, je l'ai fait et je le referai. Le prochain rendez-vous, d'ailleurs, ce sera le 17 avril au Champ de Mars, près du Mur de la Paix, de 14h à 17h. Venez nombreux.
Eh bien, merci beaucoup, Gabrielle. C'est une pratique intéressante, hein. Je crois que j'ai bien envie d'aller tester maintenant. Et maintenant, un peu de musique, elle aussi réflexive, après avoir presque touché le silence du doigt à la radio. Si vous ne connaissez pas le post-rock, c'est le moment de découvrir avec Jambinai, un groupe sud-coréen qui a fait ses premiers pas sur la scène française au Transmusical de Rennes en 2014. Jambinai sur Radio Campus Paris 93.9. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission avec notre interview. Nous voici maintenant en direct avec Valérian de la compagnie Désirade, metteur en scène et auteur, et Suzanne qui va m'accompagner dans cette interview. Cette compagnie Désirade a été hébergée par la Sorbonne Nouvelle dans ses locaux pour le festival Actefac.
Salut Éléonore, ben effectivement ces derniers temps ont été très riches en spectacles étudiants puisque grâce au soutien d'Actefac, des compagnies telles que Désirade ont pu participer à des festivals de théâtre comme Créartup. Mais tout l'intérêt de ces projets vient bien sûr de l'individualité derrière eux et de l'histoire propre à chaque compagnie finalement. Valérian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par te demander, est-ce que finalement tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et de tes expériences de théâtre ?
Alors, je suis étudiant encore et actuellement à la Sorbonne Nouvelle en Master 1 de théâtre et je suis également un Master 1 en philosophie à Paris 1. Je suis venu au théâtre de par mes études, j'ai passé un baccalauréat option théâtre et puis j'ai été très tôt amené en arrivant à Paris, puisque je suis originaire de Bretagne, là où j'ai passé mon bac en candidat libre, j'ai été amené à participer à des expériences en tant qu'interprète, aussi bien en tant que danseur dans des projets en tant qu'amateur auprès de Mathilde Monnier ou Rachid Douramdan au Théâtre de la Ville ou au Théâtre de la Cité Internationale, mais aussi au Théâtre de l'Odéon avec Jean Bellorini et puis actuellement avec Bernard Sobel en tant qu'acteur. Mais le désir de mettre en scène et d'écrire pour le théâtre, composer des poèmes scéniques, est arrivé très tôt, à savoir il y a à peu près 3 ans, avec la compagnie Désirade que nous avons créée, au sein de laquelle nous avons pu développer un désir commun de mettre en place une succession de fragments textuels que j'aurais écrits en tant qu'auteur et que j'aurais mis en scène et en espace avec mes amis et camarades comédiens qui forment la compagnie Désirade.
D'accord. Donc la vocation du théâtre t'est venue par tes propres expériences au lycée et en dehors du lycée, donc avec la danse.
Oui, voilà.
Voilà. D'accord. Ok. Donc
tu connaissais déjà le théâtre depuis longtemps avant de te lancer dans déjà cette option de théâtre au lycée. Tu étais très sensible à ce type d'art.
Je pense que c'est un peu un parcours assez classique. Je viens d'une famille qui n'a jamais été au théâtre et j'ai fait la rencontre, comme beaucoup d'acteurs, j'imagine, d'une prof ou d'un prof qui les a encouragés à se dire « Oui, pour moi aussi, c'est possible. Oui, pour moi aussi, ça peut me parler. Je peux m'exprimer avec cet outil-là. » Et ça a été le cas pour moi. Ma prof de français, Sylvaine Gourville, m'a encouragé à poursuivre en tant qu'acteur. Et puis, progressivement, le désir de la scène et le désir du texte est apparu en moi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, très activement, je crois.
Oui, effectivement, pour avoir moi-même fait une option théâtre au lycée, je comprends tout à fait la sensation d'être motivée par des professeurs. Et du coup, ta compagnie Désirade, tu m'as dit que tu l'avais formée il y a 3 ans. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes connus avec les membres?
Là aussi, je pense que c'est un parcours assez classique. On s'est rencontrés à l'université, on s'est retrouvés ici, juste où nous sommes en train de... Dans le lieu où nous sommes en train d'enregistrer cette émission, c'est-à-dire ici sur le parvis, avec Jean Eustache, qui est un des comédiens de la troupe, Arthur Daniel, qui est également comédien, Zoé Lizo, qui est comédienne, et Thibault Lepage, qui lui est scénographe et concepteur visuel, qui était un ami de Bretagne, qui est monté en même temps que moi à Paris, et qui habite dans le même crous que moi. Et nous avons eu le désir commun de monter un projet ensemble. Nous sommes allés à Avignon par hasard, nous nous y sommes retrouvés et de là est venu le désir de monter quelque chose autour du mythe de Sisyphe et le mythe d'Aristophane. Et progressivement, je me suis mis à partager les textes que j'écrivais, un peu comme ça, en cachette. Et on s'est dit que ce serait peut-être une matière effectivement possible pour l'espace du plateau.
Est-ce que tu peux nous rappeler donc les titres des œuvres qui ont déjà été présentées sur scène ?
Alors, Éclipse, fragment d'une nuit que nous allons présenter dans 5 jours, est la 3e création de la compagnie Désirade. Puisque nous avons présenté il y a 1 an au Théâtre de Belleville Désirade, fragment d'une nuit, Désirade qui donne le titre au nom de la compagnie. Et entre-temps, on a fabriqué un spectacle qui est plutôt à l'état de maquette et encore à l'état de recherche, mais qui s'appelle La course. C'est toute une interrogation sur l'invective au bonheur et à la course et au sport, au running collectif, à ces chaussures fluo qui viennent comme un accessoire des armures contemporaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus fleurir sur les pieds des personnes qui travaillent dans les bureaux ces chaussures fluorescentes, etc., ou que l'on utilise après le travail pour aller courir, etc. Et ça, c'est un spectacle que l'on a monté avec une autre comédienne qui n'est pas dans la compagnie Désirade, qui s'appelle Jeanne Desoubeaux.
Donc, vous êtes combien de membres dans la compagnie ?
Nous sommes 5 membres fondateurs, mais aujourd'hui, nous entretenons le désir de multiplier les espaces de rencontre. Aussi, c'est pourquoi on a animé un atelier à la fac cette année. Et nous avons présenté en salle des 01 juste à côté l'état des recherches que nous avons menées pendant près de 4 mois. Et nous avons aussi sollicité des amateurs qui n'ont jamais fait de théâtre, qui ne sont jamais montés sur scène afin de participer au spectacle Eclipse. Ce sont des personnes qu'on a rencontrées aussi bien par un appel à participants lancé sur Facebook, mais aussi par des annonces mises dans les Franprix ou dans des magasins, comme ça, choisis de manière assez aléatoire pour créer une sorte d'hasard objectif qui inciterait plusieurs rencontres. Voilà.
Ça a dû donner des rencontres assez particulières, non ? Si c'était des gens qui venaient d'horizons très différents.
Oui, c'est ce qu'on cherche. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, jeunes compagnies qui essayons de faire ce travail, je pense qu'il est très important d'aller à la rencontre du monde et de donner la voix à des personnes qui ont secrètement envie de monter sur un plateau, mais qui ne le peuvent pas de par leur profession, puisque certaines personnes travaillent, d'autres sont étudiants, mais pas du tout en théâtre, etc. D'autres font un peu de théâtre aussi, puisque c'est quand même assez difficile, il faut bien le dire, de trouver des amateurs, de véritables amateurs qui n'ont jamais fait de théâtre, puisque les gens qui donnent leur candidature ont déjà un peu pratiqué le théâtre, ou du moins ont un rapport fort qui les lie avec le théâtre. Mais effectivement, le groupe est très beau, très singulier dans la multiplicité des profils, des horizons, des origines. Et je crois que c'est en cela que l'on arrive à constituer le bruit du monde sur le plateau, sur le théâtre, et à reconquérir une certaine parole qui serait peut-être authentique.
Alors, par rapport à ta pièce Désirade, fragment d'une nuit, donc, qu'on a pu voir la semaine dernière, ça joue sur le rapport visuel au numérique et ça met en scène les relations amoureuses 2.0. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, et notamment sur le processus de création ?
Alors, pendant 2 ans environ, j'ai été invité à écrire au micro, comme je le dis parfois. Un peu comme vous aujourd'hui, j'ai été à la rencontre de personnes, cherchant des témoignages, recherchant des paroles que j'ai collectées et que j'ai emmagasinées dans toute une collection sonore, une banque sonore que j'enregistrais sur mon ordinateur. Après quoi, je les écoutais et je les mettais dans un fichier textuel, enfin sur Word, quoi. Et j'essayais de retranscrire mot pour mot avec toutes les fioritures du langage qui donne, comme je suis en train de le faire, avec ces divagations, ces digressions, ces
béquilles
sur lesquelles on s'appuie, qui à mon avis donne toute la singularité d'une langue. Moi, je pense qu'on connaît d'abord quelqu'un par sa voix, et je pense que c'est important d'utiliser ce matériau-là pour en créer et en faire une matière purement poétique. Il s'agit ici de poétiser le banal, en quelque sorte, quoi, avec évidemment toute l'humilité que cela doit comprendre.
C'est donc un certain type d'écriture de plateau, hein.
Oui et non. Enfin, dans notre manière de travailler, effectivement, on écrit beaucoup avec le plateau, on écrit en temps réel. Mais beaucoup de fragments sont écrits, ce serait plutôt une écriture de la rue, je pense. C'est une écriture qui se fait à la sortie d'un métro, dans un bar ou sur un chat virtuel ou sur Internet. Voilà, c'est à la fois les deux. Et j'ai rencontré des personnes qui utilisent à la fois des... J'ai rencontré des personnes via des plateformes de rencontres géolocalisées comme Mythique. Je me suis inscrit absolument à tout ce qui peut exister en termes de rencontres virtuelles, que ce soit Tinder ou je sais pas quoi. Et j'ai rencontré un certain nombre de personnes que j'ai interviewées et dont j'ai utilisé le langage, dont j'ai utilisé la manière de parler, les silences.
Donc,
etc.
C'est ce genre de site de rencontre qui a été ton inspiration principale pour la pièce ?
Oui, oui.
D'accord. Et donc, en fait, finalement, ton rôle à ce moment-là pour cette pièce est assez ambivalent, puisque tu es entre l'écriture et la mise en scène. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester tel quel ? Est-ce que les autres membres se destinent aussi à de la mise en scène éventuellement, ou tu es le metteur en scène attitré de la troupe ?
Oui, c'est vrai que c'est un double statut qui est parfois complexe, mais en même temps c'est un privilège que je m'octroie, puisque le metteur en scène que je suis peut parfois discuter, et ce tardivement dans les nuits, pour débattre avec l'auteur que je suis par ailleurs, pour essayer de dire oui, peut-être que c'est un peu trop long, chose qu'on peut peut-être pas s'autoriser avec des auteurs qui en plus ont le malheur d'être morts. Donc quelque part les acteurs aussi en sont très heureux, puisque Ils peuvent aussi me proposer des choses que je peux écrire ou partir aussi dans mon travail d'écriture à partir de leur improvisation ou même voilà, d'une simple blague faite à un bar. Je pense que tout se vaut.
Oui, donc ils te servent quand même de regard extérieur, ils te font des retours sur ton écriture, c'est quelque chose qui s'alimente.
On a la chance d'être très très proches et d'être très amis, et c'est vrai qu'on a le privilège de pouvoir se parler et de manière assez brutale parfois, mais c'est aussi une chance puisque ça évite les politesses et les fioritures, et c'est vrai qu'on se connaît assez pour pouvoir se dire qu'une chose ne nous convient pas ou qu'une autre au contraire nous enchante, etc. Et peut-être que dans l'avenir, effectivement, la compagnie va mettre en scène, et c'est en cours de discussion en ce moment, un texte classique. J'aimerais monter un texte classique et je vais proposer à un certain nombre d'amateurs qui participaient au groupe que l'on a créé de monter une pièce classique à partir de trois idées que je garde encore en mémoire et pour moi, mais que je suis en train de réfléchir et de mettre à maturité.
D'accord, donc on n'aura pas de nom d'auteur potentiel pour l'instant.
À dire vrai, j'ai pensé à Bâle de Brecht et j'ai aussi pensé à la pluie d'été de Marguerite Duras et à une troisième pièce que je suis en train d'adapter et de découper un petit peu en
D'accord.
ce moment. Voilà.
Ok. Et concernant du coup CréArtUp qui a duré finalement le temps d'un soir, quelle a été l'expérience de la troupe, de la compagnie? Comment a été la réception du public? Est-ce que tu as pu discuter un peu avec les spectateurs?
Alors lorsque l'on a joué et lorsque vous êtes venu voir le spectacle à la Tour des Dames, au centre d'animation de la Tour des Dames que l'on remercie par ailleurs, il s'agissait de la 13e représentation de Désirade dans cette version-là, puisqu'il y a eu plusieurs versions de Désirade avant cela. On en a fait même au festival à Contresens qui a lieu actuellement, organisé par la TEP. Et le festival CréArtUp, c'est un dispositif initié par la mairie de Paris, mené par la maison des initiatives étudiantes, que l'on remercie aussi au passage puisqu'ils nous sont d'un très grand secours et nous aident beaucoup. Et le troisième pôle est la Gaîté Lyrique. Et ça a été pendant quelques mois, un échange avec des structures professionnelles qui nous a orientés, qui nous ont soutenus et qui nous ont permis de jouer cette représentation au centre d'animation de la Tour des Dames, qui a été très heureuse pour nous. On a été très bien accueillis, aussi bien par la structure que par les organisateurs du festival. Et ça nous a permis aussi de rejouer cette forme qui, il y a un an, et c'est vrai que c'est assez heureux de voir que les choses changent, parce que depuis Belleville, puisque nous avons joué cette pièce pour 8 représentations au Théâtre de Belleville à peu près à la même période, eh bien, c'est assez fort de se voir posséder d'une forme qui a une vie propre. Cette pièce est presque devenue un être, et en la rejouant, on la rencontre à nouveau, et elle a changé, et nous aussi avec, quelque part, et c'est assez heureux, je crois.
Elle a changé pour le mieux, donc.
Peut-être, peut-être.
Eh bien, on voit donc que c'est une compagnie qui est bien dynamique, qui avance sur son chemin de création peu à peu. Ce sera donc le mot de la fin avec cette interview. Je te remercie, Valérian, d'avoir été présent avec nous sur Radio Campus Paris. Et nous allons passer à notre troisième chronique avec Alice. Alice, ça fait donc un certain temps que tu me parles de ce café situé tout près d'ici, à quelques rues de distance. Je n'y suis toujours pas allée, mais tu vas tous nous y emmener.
Bonjour Éléonore, bonjour à tous. Alors moi, depuis qu'un ami m'a fait découvrir le Café Curieux, j'y suis toutes les semaines. Donc j'ai décidé de vous raconter tout ce qu'il se passe là-bas. C'est un café assez particulier et intriguant, parce que quand on rentre dedans, on se croirait tombé dans le grenier de sa grand-mère sur un fond de musique hip-hop. On trouve des objets insolites partout, des jeux de société, des livres, des vieux meubles, des plantes et même une molaire de mammouth. En fait, au Café Curieux, t'as l'impression d'être ailleurs que dans la rue Scipion, que le temps est un peu suspendu, mais tu te sens comme à la maison et c'est ça qu'on adore. Et puis, le café est à 1€ et les pâtisseries maison d'Antoine sont super bonnes. L'autre concept, c'est que tout est à vendre, même la jolie tasse dans laquelle tu bois, parce qu'Antoine adore partager ce qu'il trouve et surtout, il aime que les objets aient une seconde vie. La première fois que je suis rentrée dans ce café, je pensais qu'il existait depuis très longtemps. Et puis Antoine m'a expliqué.
Bah c'est vrai qu'on a l'impression que le lieu existe depuis plus longtemps qu'un an, parce que justement le fait que j'ai mis du temps à le construire, que ça s'est construit avec le hasard de ce que je rencontrais. À un moment donné, je trouvais un tas de parquet, du coup il y a du parquet, je me suis rajouté un mois de travail, il y a des vitraux, enfin voilà, tout s'est fait avec ce que je trouvais au fur et à mesure. Donc j'accumulais avant même que le café ouvre. Plus c'est curieux, plus c'est drôle, plus c'est inattendu, plus ça me plaît. Et je pense qu'au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus d'objets d'art brut un peu, ou genre une racine d'arbre qu'un anonyme a sculpté, ou des choses un peu comme ça.
Comme on l'a entendu, Antoine adore fouiller, chiner, collectionner des tables d'objets qu'il trouve aux puces, dans des débarras ou des brocantes. Il a commencé par collectionner les négatives photos des anonymes, puis beaucoup d'autres objets. C'est ce qui fait que le Café Curieux est un lieu toujours en mouvement. Les objets vont et viennent, les gros canapés changent de place, mais le café, lui, est toujours plein. Ce que j'adore aussi au Café Curieux, c'est qu'au milieu de ce bric-à-brac, il y a très souvent des expos d'artistes. Sauf que contrairement aux expositions habituelles, elles sont au cœur de la pièce et des gens.
Ce qui m'intéresse, c'est que ça soit à la différence des galeries, souvent où c'est des lieux tout vides, tout blancs, avec une œuvre au mur à 500 euros. Bah là, c'est un lieu qui a déjà du public, quoi, qui est déjà plein. Et là, à moi de montrer des choses. Et je suis plus pour, justement, au lieu d'une œuvre à 500 euros, qui est 500 cartes postales à 1 euro et qui a un côté de partage, quoi. Et le café à 1 euro, c'est un prétexte pour, justement, qu'il y ait un partage. Il y a des moments avec les poussettes, il y a des vieux du quartier, il y a les clochards du quartier, les étudiants du quartier. C'est assez cool parfois de voir des jeunes parler avec des vieux et les échanges.
Et oui, le Café Curieux, comme il le dit si bien, c'est avant tout un lieu de partage et de rencontre. Et si on y est si bien, c'est parce que c'est un lieu ouvert à tous. Ensuite, j'ai pu interviewer Arnaud, un étudiant de Paris 3, qui est un des grands habitués du Café Curieux.
On vient 3-4 fois par semaine parce que c'est un endroit très sympa, parce qu'il y a une super ambiance, que les prix sont pas trop chers et qu'en fait il est assez particulier. C'est un peu pour tout, pour travailler, pour ne rien faire, pour discuter. Ça peut être aussi pour lire. Enfin, c'est vraiment un endroit où ça permet, comme c'est très sympathique et une bonne ambiance, de laisser place un peu à notre imagination si on s'ennuie ou quoi d'autre. Mais c'est vraiment pour tout.
Alors si vous voulez qu'on se retrouve au Café Curieux pour boire une limonade maison, c'est du mardi au vendredi de midi à 19h et tout le week-end de 13h à 20h aux 3 rue Scipion.
Eh bien, merci beaucoup Alice, je pense que j'irai y jeter un petit coup d'œil d'ici peu.
Eh bien, tu fais bien, merci Léonore.
Eh bien, oui. Pour rester dans notre thématique de théâtre, voici donc une musique qui joue avec les mots, tout comme Valérian nous l'expliquait tout à l'heure. Nous allons écouter maintenant The Architect avec Les Pensées.
Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées, les pensées, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conserver une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. Les pensées. Les pensées.
Get ready, you gotta move.
laisser se faire le flux et le reflux. C'est alors qu'émerge l'essentiel, ce que l'on est.
You gotta move, you gotta move, you gotta move, child, you gotta move. You may be high, you may be low, you may be rich, child, you may be poor.
Vous êtes tranquillité.
Le Strapontin, la culture vue du bout du rang, sur Radio Campus Paris.
C'était donc The Architect avec son titre Les Pensées sur l'album Foundation. Voilà un DJ qui mélange soul, reggae et jazz notamment. Il y a quelques minutes, nous étions avec Valérian de la compagnie Désirade et sa pièce Eclipse, fragment d'une nuit, et en ce moment même au Théâtre de Belleville et jusqu'au 24 avril. Donc n'hésitez pas à y aller, ça a l'air très très cool. C'était donc Strapontin sur Radio Campus Paris 93.9. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission, ou même de nous avoir pris en cours de route. On ne vous en tiendra pas rigueur. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster, télécharger tout ceci sur radiocampusparis.org, tout attaché, pour réécouter ces chouettes rencontres et ces découvertes musicales. C'était une émission réalisée par des étudiants de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 grâce aux ateliers proposés par Radio Campus Paris et animés par Martin Baudrero, journaliste à cette même radio.
Le Strapontin, la culture vue du bout du rang sur Radio Campus Paris 93.9.